on commence notre deuxième cours sur Igdal. Après, on passera à Bezrat Hashem à Baruch Shama. Donc, on va faire des cours clés comme ça sur la Tfila.
Page 82.
Page
182.
Non, mais il est aussi au début de la Tfila.
Ah, je n'ai pas trouvé.
Page 13, il a dit. Bon, c'est très bien. Page 182, c'est bien. Donc, dans le Igdal, on reprend à.
Page 15.
Page 15. On reprend à. On s'est arrêté à Shefa Nevuato Netano. D'accord ? Shefa Nevuato Netano. Donc, on a expliqué la semaine dernière comment dans le Igdal, il y avait donc 13 rimes. On a ici 13 lignes qui correspondent, d'accord, aux 13 principes de foi. Aux 13 principes de foi de Maïmonide. Donc, il y en a qui. On ne sait pas exactement qui a écrit le Igdal. Il y en a qui disent que c'est Maïmonide. Mais bon, il y a beaucoup qui prouvent que ce n'est pas le style littéraire de Maïmonide. Donc, on ne sait pas exactement qui a écrit. Mais en tout cas, comme on a expliqué la semaine dernière, une chose est sûre, c'est que dans ce Igdal, dans ce poème, il y a les 13 principes de foi qui sont clairement repris. Donc, la semaine dernière, on a parlé des premiers principes de foi qui sont, premièrement, l'existence de Dieu, c'est-à-dire croire en l'existence de Dieu. Deuxièmement, croire en l'unicité de Dieu. Troisièmement, le fait de ne pas matérialiser Dieu, ça veut dire comprendre que Akadosh Baruch Hu est beaucoup plus, n'a pas de forme matérielle. Quatrièmement, le fait de croire qu'Akadosh Baruch Hu est la première chose qui est la cause de tout ce qui peut être créé. Quatrièmement, on a expliqué, c'est que Dieu est la seule personne à qui on peut servir, on n'a pas le droit de servir une autre personne. Et enfin, là maintenant, on passe au cinquièmement. D'accord? Donc je refais la névoie, parce qu'on a déjà fait la semaine dernière chez Panévoie, mais je le refais. Donc il dit, c'est quoi le sixième principe, Shefa Nevuato Netano, que Akadosh Baruch Hu a donc inspiré une abondance de prophéties. El Anche Segulato Vetifarto, Akadosh Baruch Hu a donné ça, El Anche Segulato Vetifarto, ça veut dire aux hommes qui sont des hommes choisis et qui sont la gloire d'Akadosh Baruch Hu. Donc rappelez-vous, on s'est arrêté ici la semaine dernière, rappelez-vous ce qu'on a expliqué la semaine dernière, que la prophétie c'est un cadeau d'Akadosh Baruch Hu, que Dieu y donne à une personne qui est méritante. Qu'est-ce qu'on appelle une personne méritante? C'est une personne qui sait travailler. Une personne qui sait travailler, à tel point qu'il sait travailler qu'Akadosh Baruch Hu le considère comme quelqu'un de choisi. Maïmonide, il dit que tout le monde peut avoir la prophétie. Alors, aujourd'hui, c'est vrai que la prophétie d'aujourd'hui n'est pas comme à l'époque du Beit HaMikdash, mais on les appelait dans la Bible, on nous parle souvent de Bnei Hanevi'im, les enfants des prophètes. Très souvent, on parle souvent des Bnei Hanevi'im, des enfants des prophètes. C'est quoi les enfants des prophètes? C'était des gens, justement, qui se travaillaient et qui essayaient de s'éloigner le plus possible de la matérialité, du matérialisme, d'accord? Et qu'au bout d'un certain temps, ils sentaient une certaine inspiration qui était la prophétie. Donc, un des principes de foi, c'est de croire en la prophétie. Parce que vous avez des gens qui vont vous dire, moi je crois en la Torah, je crois en Dieu, je crois en ce que tu veux, mais les prophètes, moi je ne crois pas. Alors c'est un des principes de foi, et celui qui renie ce principe de foi, c'est comme s'il renie toute la Torah.
Mais il est loin quand même, Maïmonide, de dire que si quelqu'un ne croit pas à un de ces 13 préceptes,
oui.
C'est comme s'il ne croyait pas en Dieu, c'est pas loin.
Non, ça veut dire, quand je dis, ça veut dire que chacun est aussi important que l'autre.
J'ai compris, mais il a dit plus loin. Il a dit que si quelqu'un ne croit pas à une de ces conditions-là...
S'il ne croit pas au principe numéro 5, c'est comme s'il ne croyait pas au principe numéro 1. C'est la même chose.
Ça peut conduire des gens à ce qui s'est passé, les faux prophètes. Ah. Les gens qui ont été suivis des faux prophètes, en disant que quelqu'un se dit prophète,
Je vais accentuer ta question. Ta question est encore plus forte. Parce qu'en vérité, Halakha, elle dit que quand il y a quelqu'un qui vient, qui nous dit, je suis prophète, et Dieu m'a demandé de vous dire un signe, Dieu m'a demandé de vous dire pardon quelque chose, on est obligé de l'écouter. Même s'il n'a pas donné de signe. De l'écouter, ça veut dire, il te dit, faites si, on doit l'écouter. C'est seulement si on doute que ce qu'il dit c'est faux, et qu'on lui demande un signe, et que le signe ne s'accomplit pas, c'est là seulement qu'on considère un faux prophète. Mais sinon, non seulement qu'on peut l'écouter, on doit l'écouter. Tu comprends? C'est pour ça que c'est un principe de foi. Alors, septième principe de foi, Lokam be Israël ke Moshe Rod, Navi ou Mabit et Temunato. Donc, autre principe de foi, si un jour quelqu'un il va venir, un prophète il va nous dire, moi je suis un plus grand prophète que Moshe Rabbeinu. D'accord? Moi je suis un plus grand prophète, Moshe Rabbeinu vous a dit ça, mais moi je suis plus fort que lui. Et moi j'annule ce que Moshe Rabbeinu a dit. D'accord? On le croit pas. Pourquoi on le croit pas? Puisque le huitième principe de foi, d'accord? Allez messieurs, le huitième principe de foi nous dit que Lokam be Israël ke Moshe Rod, donc il ne s'est jamais levé dans le peuple juif ke Moshe comme Moshe Rod, C'est donc ni il s'est jamais levé comme Moshe Rabbeinu et ni il se lèvera comme Moshe Rabbeinu. On n'aura personne qui sera au niveau de Moshe Rabbeinu. Navi, Moshe Rabbeinu qui était un prophète, ou Mabit et Temunato, qui avait la possibilité de voir un Kadosh Baruch Hu. D'accord? Ça veut dire voir un Kadosh Baruch Hu, comme on a expliqué, en plein éveil. Il n'a pas besoin d'être en mode sommeil. En plein éveil, il avait la possibilité de voir un Kadosh Baruch Hu. Bon. Maintenant, on passe au principe suivant. Chut, allez, messieurs, s'il vous plaît. Allez, papa, ça y est. Alors, Torat Emet Nathan. Maintenant, après, on passe au principe suivant. C'est le fait qu'on a l'obligation de croire que la Torah a été donnée du ciel. Ouais, donc on prend vraiment les choses basiques.
Là, il dit, comme Moshe, il vient et dit, voilà.
Si, il y a quelqu'un, oui.
Il vient et dit, envoyez Yosef, qui vous a dit, c'est faux. C'est pas Moshe.
Non, franchement. Là, ce qu'il veut dire ici, c'est qu'il n'y a jamais un prophète qui a été au niveau de Moshe Rabbeinu. D'accord, non, bien sûr. Oui, mais le problème, c'est que ce qu'il veut expliquer ici, bah, tout ce qu'il dit, la Torah le dit déjà. Ce qu'il veut dire aussi, c'est que c'est un principe de foi. C'est-à-dire que si maintenant quelqu'un va te dire, moi je crois en la Torah, je crois en Moshe Rabbeinu, je crois en qui tu veux, mais je crois qu'il y a quelqu'un qui est plus fort que Moshe Rabbeinu. Peu importe si cette personne-là va essayer de déraciner une idée à la halakhot ou pas, mais moi je crois qu'il y a quelqu'un qui est plus fort que Moshe Rabbeinu. Un des principes de foi, c'est qu'il n'y a personne qui était plus fort que Moshe Rabbeinu. Puisqu'il faut savoir que la majorité des mitzvot qu'on a, la majorité des implications à l'achrique qu'on a, sont basées sur l'interprétation de Moshe Rabbeinu. Nous, qu'est-ce qu'on a entendu d'Akadosh Baruch Hu? Qu'est-ce qu'on a entendu d'Akadosh Baruch Hu?
Moshe nous a dit.
Non, mais on a entendu quelque chose quand même. Qu'est-ce qu'on a entendu? Les deux premiers commandements.
Ah oui.
D'accord. Après, nous, on a été éblouis et tout le reste, c'est Moshe Rabbeinu qui nous a dit, je vais vous dire ce que Dieu m'a dit. Imaginez-vous quelqu'un il vient Chassé Shalom, il dit bon, Moshe Rabbeinu il a mal compris, moi j'ai mieux compris que lui.
C'est peut-être autre chose qu'il
d'accord.
A dit, qu'il lui a pas dit ça.
C'est ça. Il a mal compris ou bien il a dit autre chose. Alors, c'est pour ça qu'il y a ce principe de foi qui dit que Moshe Rabbeinu, d'accord, on n'a jamais eu de prophète qui sera comme Moshe Rabbeinu, d'accord. Pourquoi? Parce que Moshe Rabbeinu, la force qu'il avait, c'est qu'il était capable de voir un Kadosh Baruch Hu en plein éveil, sans rentrer dans un état second.
Mais il a rien oublié, Moshe, je crois qu'il a dit. Je pense qu'il avait oublié un peu. Parce qu'à un moment.
Bon, c'est pas qu'il a oublié, il y a des halakhot après, on dit que... Si, et des halakhot, on dit que Moshe Rabbeinu, à un certain moment, il a... l'histoire des filles de Tselophrad.
Oui.
Hein, l'histoire des filles de Tselophrad. On dit que Moshe Rabbeinu, il connaissait la halakha. D'accord. Mais comme, à son niveau, à un certain moment, Rachidi, il a eu une certaine arrogance. À son niveau, hein, c'était très très fin. Donc, à Kadosh Baruch Hu, sa punition qu'elle a donnée, qu'elle dit, bon, tu vas oublier la halakha, et tu vas devoir revenir me la demander. Et c'est très très fin, hein, c'était vraiment...
Celui qui a maudit Dieu.
Oui, oui, il y a eu 2-3 cas dans la Torah comme ça, dans lesquels on dit que c'était un tikkun de Moshe Rabbeinu, parce qu'à certains moments, Dieu pensait qu'il avait un chouïa d'arrogance. Mais c'est rien du tout par rapport à ce que, je veux dire, Alvaï, que nous, on fait comme ça tous les jours. Alors, principe suivant. Torat Emet Nathan Le'amo El. Donc, Akadosh Baruch Hu, donc le Dieu, a donné une Torah de vérité à son peuple. Par qui il a donné? Aliad Nevio, par son prophète. Ne'eman Beto, par son prophète, et celui qui est fidèle chez lui, à la, et celui qui est, enfin, ce qu'on a, littéralement, ça veut dire, le fidèle dans la maison d'Akadosh Baruch Hu. De qui on parle? Moshe Rabbeinu. Parce que dans la Torah, on nous dit, Bechol Beti Ne'eman Ou. Akadosh Baruch Hu témoigne sur Moshe Rabbeinu, il dit que Moshe Rabbeinu met fidèle partout. Là, vous voyez, avant, on avait l'obligation de croire en la prophétie de Moshe Rabbeinu. Et là, on a l'obligation de croire que la Torah vient du ciel. C'est pas une adaptation des hommes, c'est pas une adaptation d'un certain message par un Kadosh Baruch. Ensuite, Lo Yachalif Ael Velo Yamir. Ça, c'est un principe très important. Lo Yachalif Ael Velo Yamir. Donc Dieu ne changera pas. Velo Yamir, et il n'échangera. Dato, sa loi. L'Erolamim, avi. Les Oulato, avec une autre religion. Ça, c'est un autre principe. Imaginez-vous quand il me dit, bon, jusqu'à telle année, c'était le judaïsme, la religion, on était les élus. Maintenant, on a décidé, c'est une autre religion. D'accord. Alors justement, seconde. Donc le principe de foi qui dit, c'est quoi? C'est qu'on dit ici que la Torah ne pourra jamais être changée. C'est-à-dire que jamais la religion, jamais Dieu dira, bon, c'était ma religion choisie, maintenant je change, j'ai pris une autre. C'est impossible. Plus que ça. Même, il y a une prophétie qui dit que Torah Chadash, quand ma chère va venir, c'est écrit Torah Chadasha Meiti Tetsé. Dieu il dit que quand ma chère va venir, une nouvelle Torah sortira de chez moi. C'est d'ailleurs ce qu'ils ont utilisé, ils marchaient même les chrétiens pour dire, voilà, nous c'est la nouvelle Torah. D'accord? Le Nouveau Testament. Bon, c'est ce qu'ils disent. Et il y a tous les mefarshim là-bas qui s'arrêtent dessus, Rashi, etc. Ils expliquent que ça veut dire quoi quand le prophète il dit Torah Chadashem et qu'il était une nouvelle Torah qui sortira. puisqu'on a un principe de foi qui nous dit le contraire. Il nous dit que jamais l'Eolamim, il a dit l'Eolamim, ça veut dire quoi? Ça veut dire à vie. Jamais ça pourra changer. Alors de quoi, c'est quoi cette nouvelle Torah? Il explique la même Mefarshim que ça veut dire que qu'on aura une telle perception de la Torah hein, que ça sera tellement beau que ce sera pour nous comme si on n'a jamais étudié la Torah. Ça sera tellement nouveau, telle perception que ce sera comme si on n'a jamais étudié. Mais la Torah, en soi, ça sera exactement la même Torah. C'est écrit là-bas, il y a une expression qui dit, il y a une expression qui vient qui dit de Rashi, qui dit que Matan Torah, d'accord, le don de la Torah ne va pas se reproduire. Ça s'est passé une fois, et même quand Mashiach viendra, ça ne se reproduira pas. C'est pour ça que le prophète il dit, Kimet Setra Meeret Mitzrayim Ar Enu Niflaot. Quand il parle de la fin des temps, il dit que la fin des temps ressemblera à la sortie d'Égypte. C'est-à-dire quoi ressemblera? Ça veut dire que ça ne sera pas comme la sortie d'Égypte. Sous quel niveau? Sous ce niveau-là, que à la sortie d'Égypte, il y a eu une innovation qui était donc le don de la Torah. Et ça, cette innovation, quand Mashiach viendra, elle ne va pas revenir. La seule chance qu'on aura quand Mashiach viendra, c'est qu'on aura la possibilité de mieux comprendre la Torah, de percevoir la Torah. Donc vous savez que quand on perçoit quelque chose qu'on ne percevait pas avant, ben on a l'impression que c'est quelque chose de nouveau. Et c'est une impression, c'est pas quelque chose de nouveau. C'est ça ce principe de foi. Que l'eau, ça veut dire ni dans ce monde-ci, ni dans le monde futur, à personne, la Torah ne pourra jamais changer.
On comprendra mieux les chokim qui étaient expliqués.
Pas que les chokim, tout, toutes les mitzvot. Mais encore une fois, c'est pas une nouvelle Torah.
On les comprendra.
C'est pas une nouvelle Torah. Parce que justement, c'est ça, c'est ce principe-là qu'ils disaient les chrétiens. Ils disaient, c'est vrai qu'il y avait un Ancien Testament, mais nous c'est le nouveau. On renie pas l'Ancien, c'est vrai. Mais nous il y a un nouveau, d'accord. Et donc justement, c'est vrai que ce principe-là il vient, il dit non.
La Torah ne va pas changer.
Oui, bah c'est ça qui dit ce principe.
Le véritable Israël.
Alors, ensuite, principe suivant. Sophé, Veyodéa, c'est Arenu. Ça, c'est intéressant comme principe de foi. Sophé, ça veut dire un Kadosh Baruch Hu, il observe, Veyodéa, et il connaît, c'est Arenu, ce qui se passe au fond de nous. Donc, ce qui se passe au fond de nous, ça veut dire tous les actes qu'on fait, toutes les paroles qu'on fait, toutes les pensées qu'on a. Des fois, on peut se dire, bon, Kadosh Baruch Hu, il sait pas ce que je fais. Bon, il sait ce que j'ai bien envie de lui montrer, mais il sait pas ce que je fais. Et là vient le principe de foi qui dit que non. Que, bien sûr, c'est des choses qu'on sait déjà, mais c'est un principe de foi. C'est-à-dire, quand quelqu'un veut commencer à faire Torah et Mitzvot, on lui dit, regarde, avant d'ouvrir toutes les Mitzvot, tu prends ces 13 principes. Dans ces 13 principes, tu as toute la Torah. C'est la base. C'est comme les fondements d'un bâtiment. Dès qu'on a ces fondements-là, après on peut avancer. Donc c'est quoi ce fondement? C'est le fondement qui dit que Akadosh Baruch Hu, Tsofé Veyodéa, c'est Arenu. Akadosh Baruch Hu, il observe. Hein, c'est comme, en Israël, à Yerushalayim, on a Arat Sofim. C'est quoi Arat Sofim?
Le monde est guetteur.
Hein, mais comment on traduit ça en français? Le monde? Scopus.
Ah ouais?
Vous voyez? Comme ça, ils disent ça, chez les, en Israël. Ouais. Dans les panneaux. D'accord? Bien sûr. D'accord? Parce que justement, Sofim, ça vient du mot voir. Donc, Akadosh Baruch Hu, il observe. Veyodéa, il connaît, c'est Arenu, nos secrets. Mabit les sauf d'Avar, Beket Mouto. Et ça, c'est extraordinaire. Akadosh Baruch Hu, c'est ce qui va se passer, d'accord, avant que ça arrive. Ça, c'est, on peut pas comprendre ça. Comment il peut savoir ce qui va se passer avant que ça arrive? Mais on est en train de le créer, le film. Et où est le libre arbitre, etc. Bon, ça, c'est toutes des questions que. La question que Maïmonide dit qu'il ne faut pas chercher à comprendre, on ne va pas comprendre. En tout cas, on a l'obligation de le croire. Que Dieu, Akadosh Baruch Hu, sait ce qui se passe au fond de nous, et qui voit ce qui se passe au fin fond des choses. Il sait ce qui va se passer, il connaît la fin de l'histoire, la fin du film, comme tu as dit.
C'est le scénario.
Non mais c'est compliqué, parce que finalement, on nous dit que... Pourquoi je dis que c'est très compliqué ça? Parce que finalement, on te dit que si tu fais une mitzvah, tu es béni, tu es récompensé, si tu fais une avera, tu es puni. Donc ça veut dire que j'ai un certain libre-arbitre. J'ai un libre-arbitre de vouloir faire une mitzvah, faire une avéra. Si tu me dis que Dieu connaît déjà la fin du film, si Dieu il sait que dans la fin du film, je vais faire une avéra. Alors je pouvais pas faire le contraire de ce que Dieu savait.
Il connaît bien peut-être la fin du film, il connaît pas quel chemin on va aller pour elle.
Ah non, c'est justement, il connaît tout. Comment c'est possible? Comprends? Ça veut dire, imagine-toi que j'ai fait une avéra. Tu savais que j'allais faire une avéra. Donc je pouvais pas faire quelque chose qui était contre la connaissance de Dieu.
Mais que lui le sache, ça vous empêche pas de le faire.
Très bien. Mais c'est ça, le problème, c'est vrai, c'est un bon point. C'est un bon point, c'est vrai. Mais ça change pas que le fait que Dieu sait déjà ce qui va se passer, ben moi je peux pas faire le contraire de ce qu'il sait. Bon, c'est une grande question, c'est une très très grande question. Et Maïmonide arrive à la conclusion dans son texte, dans Ilchot Tshuva. Il arrive à la conclusion que le cerveau humain n'est pas conçu pour comprendre ça. Et bon, là-bas, il y a des commentaires qui... commentaires autour de Maïmonide qui disent, mais non, peut-être on peut expliquer comme ci, comme ça. Et jusqu'aujourd'hui encore, il y a de l'encre qui coule sur ce, sur cette phrase de Maïmonide. Il dit que je pense que c'est pas compréhensible. Ça y est. Il fait tout un long développement. Si vous voulez, un jour, on le fera. Dans Il Khot Chouva, il fait un long développement. Et après, à la fin, il arrive à la conclusion. Il dit, je pense que le cerveau humain n'est pas conçu pour comprendre. Et jusqu'aujourd'hui encore, il y a des textes dans tous les sens qui essayent d'expliquer pourquoi c'est pas compréhensible. Parce qu'il y en a qui ont dit, non, on pense que c'est compréhensible.
Justement. Nous, parents, on Nous, parents, on voit certains enfants faire certaines choses.
Oui.
On sait exactement comment ça va se passer. On connaît l'issue.
Oui.
Donc on sait exactement même, dans certains cas, comment ça va se passer.
Oh, attendez, bah alors, on connaît l'issue.
Pourquoi on n'accepterait pas cette conception?
Bon, attention. On connaît l'issue. Ça veut dire qu'on connaît l'issue. Ça veut dire qu'on pense savoir comment ça va se passer.
On ne sait jamais.
Mais il peut nous surprendre. Il peut nous surprendre.
Il y a des chemins en plus.
D'accord. Il peut nous surprendre.
Certains cas, c'est...
D'accord. Et oui, mais il peut nous surprendre, c'est-à-dire que...
C'est pas sûr à 100%.
C'est pas sûr à 100%.
Mais on peut surprendre Dieu.
Ah, c'est ça la question. Bon, c'est pour ça que je voulais pas rentrer dedans.
Il y a des choses qui peuvent rallonger la vie. D'accord.
Ouais, mais
seule chose.
Oui. Donc c'est que notre vie elle est écrite, mais c'est la même idée.
Mais lui il sait déjà qu'on va faire ces choses qui vont rallonger.
Déjà comme il n'y a pas de notion.
C'est une grande question. Voilà, je vous dis, le cerveau humain n'est pas conçu pour comprendre. On va essayer de réfléchir, vous allez voir, vous allez vous bloquer, obligatoirement.
Et on les laisse faire justement.
Bon, allez, monsieur, on y va.
Si Rachid déjà il a dit que c'était.
Non, Rambam. Rambam il dit le cerveau humain n'est pas conçu pour comprendre. Alors, ensuite. Gomel, Leish, Chassid, Kemif, Alo. Un autre principe de foi. D'accord? Donc c'est des bases, tout ça, c'est des bases. C'est-à-dire, c'est pas forcément des mitzvot, mais c'est des bases du judaïsme. Gomel, Leish, Chassid, ou Leish, Chesed, Kemif, Alo. Donc, Akadosh Baruch Hu récompense Leish, Chesed, un homme qui fait quelque chose de bien. Kemif, Alo, selon ses bonnes actions. D'accord? Ça veut dire que, Akadosh Baruch Hu finira par récompenser. Et, Noten,
selon son comportement.
Mifralo, c'est son action, c'est un mifralo.
Ouais, ouais.
Et Noten, les rabbins. Bon, après, c'est un poème, hein, donc pour un poème, il y a des rimes, on essaye d'arriver à les Rishato, Kadmuto, etc. Bon. Noten, les Rachara, que Rishato, et Akadosh Baruch Hu va donner au Racha, donc je traduis littéralement, du mal, que Rishato, d'accord, qui correspond au mal qu'il a fait. Donc en d'autres termes, on a l'obligation de croire dans le récompense et la punition. D'accord. Quelqu'un qui va dire... Pardon ? Oui. Donne.
Ouais. J'ai entendu des personnes mettre des
Noten. Ah non, c'est Gomel. Tout est au présent ici. Gomel, Noten. D'accord. C'est-à-dire, si quelqu'un un jour va vous dire, moi je crois que la Torah c'est très intéressant, c'est très beau, c'est très joli, et c'est très bien de se travailler, mais moi je crois pas au concept de récompense et de punition. Moi j'y crois pas. D'accord. On dit, monsieur, c'est un principe de foi. Tu dois y croire. Que tu comprennes ou tu comprennes pas, c'est une autre question, mais tu dois y croire.
Il y en a qui disent que la récompense, elle est que dans le monde futur.
Oui, non, d'accord, pas de problème. Ça, tu peux croire. Ça, c'est une forme de récompense, mais crois en la récompense. Ensuite, Ishlach leket yamin meshichenu. Ça, c'est un principe de foi très important. Il y a des gens qui vont dire, moi, je crois en toute la Torah, mais Mashiach, j'accroche pas. Je pense que la Torah, on peut se débrouiller avec ça en exil. Et bon, pour moi, on est très bien comme ça, Mashiach, il n'y a pas besoin. D'accord. Donc un des principes de foi, c'est quoi? C'est Ishlach leket yamin meshichenu, que Akadosh Baruch Hu finira par envoyer les Ketz Yamim. Alors ici il dit les Ketz Yamim, comment il dit chez vous? Très bien. Donc les Ketz Yamim, ça veut dire à la fin des temps. Ketz, ça veut dire à la fin. Yamin, des jours. Meshichenu, son Mashiach. Livdot, pour délivrer. Mechake, ceux qui attendent. Ketz Yeshuato, d'accord? Ceux qui attendent donc la fin de sa délivrance, c'est-à-dire ceux qui attendent donc la fin des temps, la délivrance. Alors c'est intéressant. Comment Maïmonide, il explique. Maïmonide, dans les dernières lois de Maïmonide dans le Mishneh Torah, c'est les lois de Mashiach. Donc il a compilé des lois, comment ça va se passer, surtout comment on peut déterminer si une personne est Mashiach ou pas. Et là-bas, il dit la chose suivante, très intéressant. Il cite au moins deux mitzvot de la Torah qu'on n'a jamais pu accomplir et qui pourront être accomplis uniquement lorsque Mashiach viendra. Dans ceci, dans 13 mitzvot, il dit qu'il y en a au moins deux. Et il y en a d'autres, mais bon, il y en a au moins deux mitzvot, notamment la mitzvot de la ville de refuge, qui sont des mitzvot que la Torah nous dit clairement qu'on ne pourra accomplir uniquement quand Mashiach viendra. Et de là, Maïmonide dit la chose suivante. Il dit que celui qui ne croit pas en Mashiach, non seulement qu'il ne croit pas en un des principes de foi, mais il ne croit pas en toute la Torah. Pourquoi? Parce qu'on a un principe que celui qui renie une mitzvah, c'est comme si qu'il a renié toute la Torah. Donc le fait de renier Mashiach, ça veut dire que tu renies le fait que la Torah t'a dit qu'il y a des mitzvot qu'on fera quand Mashiach viendra. Parce que, attention, il n'y a pas de mitzvah de Mashiach. Il y a une prophétie de Bilaam. La force de Maïmonide, c'est qu'il a été capable de dire que c'est pas seulement une prophétie de Bilaam. S'il y a des mitzvot de la Torah qui en dépendent, donc ça veut dire que Dieu a pensé à ça, ça veut dire que si tu crois pas à Mashiach, tu crois pas à ces mitzvot-là, donc tu crois pas en toute la Torah.
Ouais, c'est Maïmonide. Scripté,
ouais. Pas marqué. Et les allusions, comme par exemple dans Az Yashir. D'accord. Alors chantera Moshe, alors qu'il est en train de chanter. Prends au futur. Là, Rachid dit, là-bas, il dit, vous verrez dans Rachid, Rachid dit, remet les traits à Tabiti Minatora. C'est une allusion qu'il y aura la résurrection des morts. C'est des allusions, tout ça. Et là, Maïmonide, il explique que c'est pas... Maïmonide, il dit que justement, il dit que c'est beaucoup plus fort qu'une allusion. Il y a des mitzvot qui en dépendent. C'est ce qu'il y a de plus fort qu'il peut y avoir. Il y a des mitzvot qui dépendent de ça.
C'est quoi la deuxième mitzvot?
J'ai plus en tête. Je vous l'aurais dit sinon tu l'avais en tête. Mais la mitzvah de la ville de refuge, la Torah dit comme ça, elle dit que quand Mashiach viendra, on devra rajouter encore 3 villes de refuge. Ça n'a jamais été fait. Ça n'a jamais été fait. D'accord ? C'est pas seulement ça. Et quand Mashiach va venir, on aura besoin des villes de refuge ? Hein ? Il n'y aura plus de meurtre.
Je crois que pendant 70 ans, ça va continuer comme ça.
Il n'y aura plus de meurtre. À quoi ça sert les villes de refuge ? C'est une autre question. Hein ? Et plus de meurtre. Pourquoi les villes de refuge ? Non seulement qu'on ne se suffit pas des 6 qu'il y a, on rajoute encore 3. Qu'est-ce qui va se passer ? Bon, il y a beaucoup de farchim qui s'arrêtent.
Orchestre Chamine, c'est 6000 ans.
Ville de refuge, une des explications, c'est que les villes de refuge, c'est écrit Divrei Torah Koltin. C'est que dans ces villes de refuge, c'est des centres de Torah. Que les gens qui étaient perdus, qui étaient perdus spirituellement, ils allaient là-bas pour étudier la Torah. Et une des explications qu'il dit, c'est que ces villes de refuge, quand Mashiach va venir, ils vont se transformer en centres de Torah. Et ça sera aussi des villes de refuge pour quelqu'un qui a tué, mais dans les faits, personne ne tuera. Bon, mais il y a beaucoup de commentaires sur ça. Hein, alors, donc, Livdot, donc, ça c'est le 12e principe de foi, 12e principe de foi qui dit que Akadosh Baruch Hu finira par envoyer Mashiach. C'est un principe. C'est un principe de foi. Qu'on comprenne ou qu'on comprenne pas. C'est un principe, c'est une base du judaïsme. C'est pour ça qu'à chaque fois, il n'y a pas un livre dans lequel on ne dit pas « un jour ma chère viendra, un jour ma chère viendra ».
C'est limité dans d'accord le temps, avant 6000 ans.
Ouais. Ouais.
On le voit où
c'est Mara Sanhedrin, page 98. Dit clairement, il dit que, la Gemara là-bas dit la chose suivante. La Gemara dit que le monde est séparé, les 6 millénaires sont séparés en 3 groupes. Les deux, donc ça veut dire on a 2000, 2000, 2000. Les 2000 premières années, là-bas, la Gemara a dit, c'est la création du monde. Donc c'est là que le monde est en train de se former. D'accord ? On l'a vu, hein. Par exemple, Noir, c'était à l'année 1600. Ça veut dire que c'est là que le monde est en train de se former. Les 2000 années d'après, c'est Torah. C'est là que la Torah a été formée. Le principal de la Torah a été, donc c'est là que la Torah a été donnée. C'est là que la Mishnah a été faite, c'est là que la Gemara a été faite, c'est là qu'on a eu le Beit HaMikdash, c'est là que toute la Torah a été formée. Et là-bas, la Gemara a dit, les deux derniers millénaires, c'est Yemot HaMashiach. C'est la fin des temps. Deux derniers millénaires. C'est-à-dire quoi, la Yemot HaMashiach? Ça veut dire qu'à partir de, donc, à partir de, dès qu'on a démarré ces deux derniers millénaires, Mashiach peut venir. Ça y est. On est déjà rentré dans le processus. C'est-à-dire que le processus est déjà démarré. Après, la date butoir, bien sûr, c'est l'an 6000, mais il peut venir bien avant, ça fait déjà 2000 ans qu'il peut venir. C'est ça ce qu'il faut pas oublier. Il peut venir bien avant. C'est pour ça qu'il faut croire constamment. Et c'est vrai que c'est pas facile, parce que plus on est en exil, et plus on se dit, mais attends, finalement, écoute, quand il viendra. Qu'est-ce que tu me prends la tête maintenant? D'accord? Mes parents, mes grands-parents, ils y ont cru. Mes arrière-grands-parents, ils y ont cru. Il est pas venu. D'accord? Il est pas venu. Alors qu'est-ce que tu me veux maintenant? À quoi ça sert d'y croire? C'est ça la question que j'ai dit. À quoi ça sert d'y croire? S'il viendra, ben on verra. Qui vivra, verra. C'est ça la réponse. La réponse, c'est que c'est un principe de foi. C'est qu'on doit savoir que la manière comment on sert à Kadosh Baruch Hu aujourd'hui n'est pas normale. On sert pas à Kadosh Baruch Hu normalement. Aujourd'hui, on accomplit uniquement un tiers de 13 mitzvot. À savoir, sur les 613 mitzvot, on accomplit, il me semble, 242, si je ne me trompe pas. 242 mitzvot. On peut accomplir que 242. Toutes les autres mitzvot, on ne peut pas les accomplir, parce que le Beit HaMikdash n'est pas là, donc il n'y a pas le Sanhedrin, donc il n'y a pas le Yovel, etc. On n'a pas toutes les mitzvot. Donc il faut comprendre, c'est pour ça que c'est un principe de foi. D'accord ? Et Maïmonide, il le répète souvent, et tout le monde le répète. C'est un principe de foi de savoir que il faut que Mashiach revienne, que le système de la Torah, c'est pas fait pour la galoute, c'est pas fait pour l'exil. Et je finis avec le dernier principe. Metim Yechaye El Berof Razdo, Akadosh Baruch Hu fera revivre les morts par sa grande bonté. Baruch Adé Hachem Teilato, d'accord, et donc Akadosh Baruch sera toujours béni. Donc là, c'est quoi le dernier principe de foi? C'est la résurrection des morts. C'est quand même si une personne va dire, bon, moi j'y crois à Mashiach, mais je crois que Mashiach sera un homme politique, il sera très fort, grâce au pouvoir, mais la résurrection des morts, j'y crois pas. Et monsieur, c'est un principe de foi. D'accord? Là, je vous dis tout à l'heure, on a une allusion dans le Az Yashir, d'accord, qui dit qu'il y aura la résurrection des morts. On a des allusions. C'est pas écrit clairement dans la Torah. Il y a des allusions. Dans la Gemara, il y a que ça. C'est écrit partout. Le traité métime, la résurrection des morts. Et c'est ce qu'on dit quand quelqu'un parle de ce monde, on dit qu'il reviendra. C'est pas seulement pour le consoler, on dit bon, vous console, après vous allez oublier. Non. On y croit, c'est un principe de foi, qu'il y aura la résurrection des morts. C'est-à-dire, on croit que, en d'autres termes, c'est ce qu'il veut expliquer ici, c'est qu'on croit que, même si, au bout d'un certain temps, les Neshamot doivent partir, c'est-à-dire à part de ce monde-ci, mais on sait que le but ultime de ce monde est dans ce monde, dans le monde-ci. Et que toutes les Neshamot finiront par revenir. Même si personne va dire non, le but c'est le spirituel, le but c'est de quitter ce corps, on te dit non mais ça marche pas comme ça. La Torah, on nous a donné des mitzvot, des mitzvot physiques, des mitzvot matériels, et même les Neshamot qui ont quitté ce corps, il y a tout ce qu'il faut.
Il y a du stock.
Et tout ce qu'il faut. Les Ratachem, la Kadosh Baruch Hu, d'accord.
Regardez le groupe.
Il y en a eu de beaucoup pour partir.
Si tout le monde devait revivre, c'est beaucoup.
Combien d'après toi?
Mais attention,
attention,
faut pas oublier le concept des Gilgoulis. Ça fausse le calcul.
Je crois que je vais vivre avec des hommes préhistoriques autour de moi.
C'est intéressant, ça. On a toujours posé la question, parce que le prophète Isaïe, quand il parle de la fin des temps, il dit que les morts ils vont se lever dans le même état qu'ils étaient enterrés. Bon, bien sûr, après, ils seront pas malades, mais... Celui qui était vieux, il va se lever vieux.
Celui qui s'est exposé la tête,
il va se lever. Et ça, je me suis toujours posé la question, de quoi le monde aura l'air?
Et
ça, qui vivra verra. De quoi le monde aura l'air?
Non, c'est la somme de toute l'humanité.
Vous savez, des fois, moi, ça m'arrive de m'évader un peu dans mon esprit. Est-ce que vous avez déjà pensé au Beth Amigdash? Hein? Est-ce que tu te vois, Michel, est-ce que tu te vois aller au Beth Amigdash avec un sacrifice et l'amener au Cohen pour qu'il fasse avec le sang et tout?
Pourquoi pas?
Hein?
Pourquoi pas?
Mais est-ce que tu... Est-ce que...
Mais non, il y a d'autres choses que j'ai mal compris.
Des fois, j'essaie de vous évader des fois, de penser à ce qui va se passer quand ma chère va venir. C'est... On a du mal à concevoir.
C'est là qu'il y a bien les grillades, hein.
Il y aura la queue, hein.
Enfin, alors, Teilato, vous avez encore Teilato?
Bon, on n'a pas Teilato.
Ok, alors on s'arrête ici. Voilà. Donc on a ici les 13 principes de foi, d'accord? Alors les 13 principes de foi qu'on a dit ici, le Harizal avait l'habitude de ne pas les dire. D'accord? Le Harizal a même écrit, il a demandé de ne pas les dire. C'est pour ça que par exemple Minak Rabad, on ne dit pas le Higdal du tout. 13 principes de foi, bien sûr qu'on y croit, mais le Higdal on ne le dit pas du tout. Mais il y a beaucoup de communautés, la majorité des communautés de Farad le disent. Il y a aussi certaines communautés ashkénazes, puisque le Shnei Luchot Abrit, qui est enterré à côté de la tombe de Maïmonide, d'accord? Donc à Tibériade. Lui, au contraire, il a dit que c'est très important, non seulement qu'on peut le dire, mais il faut le dire, et il faut le dire tous les jours, et c'est une grande ségoula, etc. Hein, vous savez, comme dans la Torah, on peut avoir un qui dit blanc, l'autre qui dit noir, et les deux disent vrai. Donc, c'est pour ça qu'il y en a beaucoup qui ont l'habitude de le dire tous les jours, d'accord? Et c'est pour ça qu'ils l'ont mis dans les livres de prière, ils l'ont mis au début de la prière. Pas seulement le vendredi soir. Aujourd'hui, Igdal, les gens ne le disent que vendredi soir. Vous prenez la page 15, où vous allez le voir, et les gens qui viennent tôt à la synagogue, ils lisent tous les matins le Igdal.
C'est une
ségoula, d'accord? C'est une ségoula, c'est-à-dire le Yigdal et le Kimraï. Voilà. Donc avec ça, on a fait le tour des 13 principes de foi. Ça reste là.